Un livre est un objet digne de respect.
Absolument.
Comme un in-folio.
Eh bien oui, la semaine est grave. La France est suspendue, pas que, aux élections prochaines dites municipales. En fait, on ne sait plus très bien s'il s'agit d'un suffrage national destiné à donner la couleur politique de la France, s'il s'agit de satisfaire les égos de ceux qui se croient seuls capables de faire ce qu'ils n'ont pas fait avant, ou si le sujet est encore le bien de la communauté. Alors, pour démêler tout ça, j'ai sorti de ma bibliothèque Le Prince de Machiavel, un ouvrage écrit en 1513. C'est quand même, et ça reste, un texte majeur de la littérature politique. Le livre en lui-même est déjà machiavélique. Il est obsédant. La clarté et la logique du texte montrent combien tout est assumé. S'entremêlent la raideur gelée du raisonnement et la passion enflammée de la conviction pour le but à atteindre. C'est servi par la toute première traduction, remarquablement ciselée et stylée, d'un certain Jacques Gohori, un gars qui a vécu au XVIe siècle et qui l'a donc traduit quelques années après la parution du livre en Italie. Comme quoi, ça circulait pas mal quand même à l'époque. N'ayant pu obtenir de l'autre radio le financement d'une édition originale à 3800 euros, oui, c'est déplorable, ça aurait été tout à fait en phase avec la noblesse de cette chronique, eh bien je ne présente qu'un format livre de poche daté de 1962, avec en médaillon, quand même, le profil de Machiavel. Acheté 1 euro sur un marché, 183 pages. Mais qui est Machiavel ? 1469-1527. C'est donc un penseur humaniste de la Renaissance. Il a vécu à Florence toute sa vie. C'est un contemporain de Léonard de Vinci, lui aussi florentin, il a pu lui serrer la pince. Tout comme la pince de Savonarole, mais c'était plus dangereux, un dictateur théocratique qui a sévi sur place avant de finir pendu et brûlé, comme les livres et les œuvres, notamment celle de Botticelli, qu'il a mise au bûcher pour purifier la ville. Une grande tendresse, ce bonhomme. César Borgia est le modèle abouti du prince parfait selon Machiavel. Et effectivement, on connaît bien la tendresse du dit Borgia, cher à tous les tyrans de la Terre. Le Prince, donc, est le livre le plus célèbre de Machiavel. L'histoire, il enseigne à un prince, Laurent II de Médicis, qui a succédé à Savonarole, il le tutoie, l'art de gouverner. Sa démonstration, et il s'agit bien d'une démonstration, c'est mathématique, hein, est froide et sans scrupules, seule ne vaut que la recherche du résultat. On dit que son livre est à double tranchant. Oui, dans les mains d'un despote, sans clairvoyance, ce serait la recette du succès par tous les moyens. Ça, on n'en doute pas. Dans les mains du peuple, ce serait l'arme de la liberté par la dénonciation des procédés des puissants. J'ai du mal à le croire. Surtout qu'il faudrait quand même qu'il sache lire. Mais bon, une évidence en tout cas, ça c'est vrai, Machiavel souhaite retrouver une grande et belle Italie. À cette époque, elle est la cible des puissances étrangères, dont la France d'ailleurs, du fait des pouvoirs et contre-pouvoirs des cités-États entre elles et de l'influence, évidemment, de la papauté. Pour résumer, d'après Machiavel, la raison d'État ne connaît pas la morale. La nécessité est le moteur de l'action politique. La nécessité fait loi. Elle est donc au-dessus de la loi. Le conflit vaut autant que la concertation, ce qui légitime le recours à la force. La conservation du pouvoir est garante de la sécurité du peuple. Mmh. Et bien maintenant, nous allons vérifier tout ça à la lecture du fameux prince. Et on commence par une question grave. Comment on doit gouverner les cités ou principautés, lesquelles, avant qu'elles fussent conquises, vivaient sous leurs propres lois ? Quand les pays qui s'acquièrent sont accoutumés de vivre sous leurs lois et en liberté, il y a trois manières de s'y maintenir. La première est de les détruire, tout simplement. L'autre d'y aller demeurer en personne. La troisième est de les laisser vivre selon leurs lois, en tirant un tribut bien sûr, après y avoir établi un gouvernement de peu de gens qui les conservent en amitié. Parce qu'étant ce peu de gens élevés en cet état par le prince, ils savent bien qu'ils ne peuvent durer sans sa puissance et sa bonne grâce. Sa bonne grâce. Passons maintenant à ce dilemme. de la cruauté et clémence, quel est le meilleur d'être aimé ou craint ? Il y répond. Tout prince doit grandement souhaiter d'être estimé pitoyable et non pas cruel. Néanmoins, il doit bien prendre garde de n'appliquer mal cette miséricorde. Et il l'ajoute un peu plus loin dans le texte. Là-dessus naît une dispute s'il est meilleur d'être aimé que craint ou l'inverse. Je réponds qu'il faudrait être l'un et l'autre. Mais comme il est bien difficile de les marier ensemble, il est quand même beaucoup plus sûr de se faire craindre qu'aimer. Un autre chapitre, comment les princes doivent garder leur foi. Là, tu vas voir, c'est impressionnant. Chacun entend assez qu'il est fort louable à un prince de maintenir sa foi et vivre en intégrité. Néanmoins, on aime bien les néanmoins chez lui, on voit par expérience de notre temps que ces princes se sont fait grands qui n'ont pas tenu grand compte de leur foi et qui ont su par ruse circonvenir l'esprit des hommes. Il faut donc savoir qu'il y a deux manières de combattre. L'une par les lois, l'autre par la force. La première sorte est propre aux hommes, la seconde propre aux bêtes. Mais comme la première bien souvent ne suffit pas, il faut recourir à la seconde. Ce pourquoi est nécessaire au prince de savoir bien pratiquer la bête et l'homme. Et il ajoute plus loin, il n'est pas nécessaire à un prince d'avoir toutes les qualités, mais il faut qu'il paraisse les avoir. Il faut noter qu'un prince, surtout quand il est nouveau, ne peut observer toutes ces conditions par lesquelles on est estimé homme de bien, car il est souvent contraint, pour maintenir ses états, d'agir contre sa parole, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion, ce pourquoi il faut qu'il ait l'entendement prêt à tourner selon que les vents de fortune et variations des choses lui commandent, et comme je l'ai déjà dit, ne s'éloigner pas du bien s'il peut, mais savoir entrer au mal s'il est nécessité. Et je vais terminer par cette pensée, les hommes en général jugent plutôt aux yeux qu'aux mains, car chacun peut voir facilement mais sentir bien peu. Tout le monde voit bien ce que tu sembles, mais bien peu ont le sentiment de ce que tu es. Qu'un prince se propose pour son but de vaincre, de maintenir l'état, les moyens seront toujours estimés honorables et loués de chacun, car le vulgaire ne juge que de ce qu'il voit et de ce qu'il advient. Et maintenant, on peut aller voter.
Comme un in-folio.